Est-ce que tu as l'impression que ton école est élitiste?
Oui, enfin, je pense, à mon avis, un peu.
T'as l'impression que c'est un public quand même assez huppé?
Oui, c'est huppé.
C'est normal, vu qu'il y a une discipline plus stricte que dans d'autres écoles, donc c'est normal que... Par exemple, si on peut pas mettre basket blanche, il y aura toute une catégorie qui viendra pas, quoi.
C'est surtout une seule classe sociale, quoi, à Saint-André, mais c'est pas dérangeant, moi, je trouve, quoi.
Vous prenez une feuille. Vous n'avez pas droit au livre, vous mettez votre nom, la date et vous mettez test de lecture.
Dans le système scolaire belge, il existe une école de la sélection. On parle couramment d'élitisme, un terme qui de nos jours témoigne d'un clivage entre une classe dirigeante et une classe dirigée. C'est surtout à Bruxelles et en Wallonie que se situent ces écoles dites élitistes, adeptes de la sélection de leurs élèves. C'est une réalité que certains subissent, que d'autres renient. Johan Lismont, président du bureau exécutif du syndicat de l'enseignement libre CEL7K, récit.
Tout le monde fait semblant d'être d'accord sur les missions de l'école. C'est-à-dire que les missions de l'école, c'est justement le brassage culturel, c'est l'ouverture, c'est l'égalité des chances, l'émancipation sociale. En fait, je pense qu'il y a un très large consensus social sur le fait que l'école doit sélectionner. Je veux dire, tous les organisateurs d'école ne veulent pas reconnaître qu'ils sélectionnent, mais dans les faits, nous sélectionnons dans l'enseignement. Mais ça ne fait pas bien dans le discours.
Il existe donc encore un conservatisme dans certains milieux, souvent des milieux privilégiés. Ce n'est pas de cette manière que la ministre-présidente en charge de l'enseignement obligatoire, Marie Arena, perçoit le rôle de l'enseignement. Au contraire.
Moi, l'élitisme, pouvoir amener chacun au maximum de ses capacités, je trouve ça génial. Donc, c'est pas ça qui me dérange. C'est quand il est réservé à certains. Et donc, permettre à un petit d'origine marocaine d'aller dans une école qui est une école exigeante, je veux dire, c'est la moindre des choses qu'on puisse garantir. On doit donner sa chance à tout un chacun dans l'ensemble des écoles.
Certaines écoles pratiquent ce tri et le nient. Pourtant, pour ceux qui en sont victimes, c'est un fait. Il n'y a pas de doute. Des élèves du centre scolaire Saint-Vincent en témoignent.
Ils donnent pas accès à tout le monde, quoi. Enfin, ils font des préférences au niveau des élèves.
Mais maintenant, ils font que ça. Et maintenant, ils trient.
L'Athénée Royal Serge Creuse est situé à Bruxelles, dans un quartier que d'aucuns qualifieront de peu fréquentable. Les élèves y sont majoritairement d'origine étrangère. Elle fait dès lors partie d'une certaine catégorie d'écoles, de celles qui ne connaissent pas le privilège. Le proviseur de l'implantation 2 de cette Athénée, François Allemans, en est conscient.
C'est vrai que ces élèves de ce quartier-ci, ou sortant de nos écoles primaires, qui veulent aller s'inscrire parfois dans des écoles autres, sont assez mal reçus. Et de ce fait-là, parfois nous reviennent en expliquant l'expérience qu'ils ont eue en voulant se présenter quelque part. On a gentiment dit que ce n'était pas pour eux.
Sélection à l'entrée, dépenses scolaires exorbitantes, fausses listes d'attente, renvois, autant de filtres et de mécanismes pervers qui ne visent qu'une seule chose, le tri.
Je pense que si vous vouliez vous faire soigner et qu'on vous disait dans un hôpital « non, vous n'avez pas le profil », vous ne seriez pas vraiment d'accord. L'école, c'est exactement la même chose. C'est un enfant qui veut venir dans cette école et à qui on dit « non, tu n'as pas le profil ». Ce n'est pas juste.
Cet élitisme comporte différents aspects, intellectuels, social, professoral. Le syndicat CEL7K a une idée bien arrêtée sur la question.
Je pense que c'est réellement d'abord un élitisme social, avant toute chose, ou un élitisme de type éducationnel. C'est-à-dire, des parents dans un certain nombre de milieux ne veulent pas que leurs enfants soient avec n'importe qui.
C'est pourtant sur base de cette mixité sociale peu appréciée que la ministre Arena a élaboré son plan de lutte contre la discrimination scolaire et la dualisation des écoles. Une mixité qui devrait d'ailleurs augmenter la performance de l'enseignement, ce que la ministre entend atteindre par son décret inscription.
Le décret inscription concerne les enfants qui vont s'inscrire en première année secondaire. Il a pour objectif de redonner à chaque parent le droit d'inscrire son enfant dans l'école de son choix. Et donc, comme c'était un droit qui était inscrit dans la Constitution, mais qui était de plus en plus bafoué, c'est-à-dire que souvent, des parents nous disaient « Mais tiens, j'ai pas pu être inscrit dans telle école parce que je suis arrivée trop tard », ou bien « Je n'ai pas pu être inscrit dans cette école sans élément objectif », c'est-à-dire qu'on m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu dans cette école. Et donc, on a dit « On doit absolument corriger la situation parce qu'il s'agit d'une école publique, quel que soit le réseau, et donc chaque personne a le droit d'être inscrite dans l'école qu'il a choisie. » Alors pour ce faire, la seule solution qui a pu être trouvée a été de définir une date d'inscription qui est connue par tous. Donc, c'est-à-dire on commence les inscriptions à partir du 30 novembre. C'est-à-dire que les inscriptions peuvent s'étaler jusqu'à la veille de la rentrée scolaire prochaine. Et donc ce n'est pas des inscriptions qui se clôturent le 30.
Brasser les publics scolaires, mixer le tout, c'est la méthode clé. Tous les responsables d'école ne sont pourtant pas convaincus par cette nouvelle procédure. Leur discours est d'apparence favorable, plutôt superficiel, et ils nuancent. C'est ce que fait Madame Delex, elle est directrice générale de l'Institut Saint-André à Bruxelles.
On n'arrive pas à avoir une école qui corrige les inégalités sociales. Et d'abord, on a un problème social. Et puis, vous avez effectivement des adultes, des directeurs, des enseignants qui ont leur propre manière de voir. Et vous n'empêcherez jamais quelqu'un d'avoir sa propre vision politique. Je ne suis pas sûre que des enfants et des parents qui sont dans des milieux, je dirais, socioculturellement différents, aient tellement envie. Je ne suis pas sûre que des enfants de Saint-Josse et des parents de Saint-Josse aient envie que leurs enfants soient déracinés et envoyés dans certaines écoles du club.
Ce type de discours n'étonne pas François Allemans. Les inégalités, ce proviseur les connaît et nous confie son avis sur le décret.
Parler avec des gens ou qui travaillent dans ces écoles dites élitistes et voyez un petit peu la réponse qu'ils vous donneront souvent. Ils vous donneront souvent, mais de toute façon, il y a toujours eu des différences entre les gens. Mais évidemment, mais si on les maintient, c'est clair qu'il y aura toujours... Elles vont être de plus en plus grandes. Donc si on les maintient, c'est clair, dans ce cas-là, qu'il y aura des différences entre les gens. Un gosse, il n'est pas plus malin ou plus con parce qu'il est dans un milieu ou un autre. Hein, mais si, bien sûr, on entretient tout pour que les uns restent dans leur secte par rapport aux autres, ben c'est clair qu'on va entretenir ces différences. Mais il n'y a pas de sélection naturelle. C'est évident qu'il y a des élèves qui sont plus adaptés à l'école que d'autres, mais ça, on les a dans tous les milieux sociaux, ces élèves-là. Que ce soit dans les familles dites aisées ou dans des familles moins aisées, on aura ça partout. Je trouve que l'idée sous-tendue par ce décret, moi, c'est OK, hein. Je suis pour. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on vit dans ce type d'école-ci ? Je ne vais pas utiliser les termes que j'aime pas utiliser, mais on reçoit parfois ce que d'autres ne veulent pas.
Les bobos ont des enfants bien élevés qui ont lu Le Petit Prince à 6 ans, qui vont dans des écoles privées de racailles. Je me comprends.
Malgré les doutes, la ministre Arena voit son décret soutenu par les syndicats et associations, parmi eux le collectif Une école ouverte à tous, dont fait partie Rudy Wattier, secrétaire général du mouvement socio-pédagogique Changement pour l'égalité. Il nous explique leur rôle.
Ce qui nous a motivés, c'est d'une part, nous, en tant qu'associatifs de terrain, de première ligne, à savoir des associations comme le service droit des jeunes, InfoJeunes, qui sont vraiment en première ligne avec des parents, des élèves qui ne trouvent pas d'école ou qui, s'ils trouvent une école, se font refuser une école beaucoup trop facilement sur base d'arguments qui ne sont pas légaux. Je donne un exemple, on demande à des élèves de 6e primaire de montrer leur certificat d'études de base, donc le bulletin de 6e primaire, avec un minimum de 70%. C'est tout à fait illégal. Mais enfin, à partir de cela, on sait que l'école va orienter son public, va essayer de trier, il faut bien utiliser ce mot-là, son public.
Ces associations soutiennent ce décret, mais relèvent néanmoins quelques zones d'ombre. Elles craignent un non-respect des nouvelles mesures d'inscription par les écoles, ainsi qu'un problème d'information et de compréhension des parents concernés, parents qui ont d'ailleurs reçu à ce sujet un courrier explicatif de la ministre. Frédéric Ligaud, permanent au mouvement ouvrier chrétien.
L'information de base par rapport aux nouvelles modalités d'inscription a échappé à une grande partie de la population, et principalement a échappé aux familles qui devaient potentiellement bénéficier positivement directement de ces nouvelles modalités d'inscription. Ça, c'est une grosse difficulté, mais plus globalement, on a affaire là à une difficulté de compréhension du système scolaire qui est de plus en plus illisible et opaque pour une majorité de familles, et pas seulement des familles d'origine populaire.
J'ai rencontré le collectif qui dit bon, la lettre aux parents, il y a des parents qui ne décodent pas la lettre. Et donc je dis ok, comment on peut travailler avec les associations d'écoles de devoirs, avec... Donc on a constitué un groupe de travail avec eux pour dire voilà, le décret maintenant il est passé, les inscriptions on va les laisser se faire le 30, et puis on va se voir après le 30 et on va identifier tout ce qui n'a pas fonctionné. Et on va voir s'il y a lieu de corriger le tir par circulaire, par modification de décret, par donc tout ça.
Au-delà de ces aspects, certains parents s'arrêtent aux modalités pratiques. Des dérogations sont prévues permettant une inscription prioritaire aux enfants soit en immersion linguistique, soit fréquentant une école primaire adossée à une école secondaire, soit ayant des frères et sœurs dans l'établissement. Mais les parents non concernés s'inquiètent, les médias surenchérissent et du coup c'est la panique. Un parent témoigne.
Je pense que ça va être le bazar parce qu'on est occupé à se renseigner sur les écoles, il n'y a plus beaucoup de place. On s'est déjà préparé à camper devant les lycées, donc on a commencé à placer nos enfants pour la nuit du jeudi au vendredi pour qu'ils soient pas chez nous, mais pour qu'on puisse justement se rendre disponible. Et donc tous les deux, on va faire le siège devant au moins deux écoles pour les inscriptions, pour être certain que nos enfants soient inscrits.
Quand on dit vous prenez un ticket, première arrivée, premier servi, c'est pas pour ça qu'il y a moins de place. Donc dans la plupart des écoles, il n'y aura pas de problème, une première chose. Deux, c'est beaucoup plus transparent, c'est-à-dire qu'on ne peut plus refuser quelqu'un sous prétexte qu'il n'y a pas de place alors qu'il y en a encore, ou sous prétexte que c'est toutes les autres qui ont eu les places avant, et que vous, parce que vous n'étiez pas bien informé, vous n'avez plus la place. Donc c'est beaucoup plus transparent. Maintenant, c'est sûr que ça retire certains privilèges. Mais bon, on n'est pas dans une société des privilèges. En tout cas, je n'ai pas envie de l'organiser tel quel. Trois, il y a des écoles où il y a déjà des difficultés aujourd'hui. Donc, où il y a plus de demandes qu'il n'y a de place. C'est déjà le cas. La seule chose, c'est qu'avant, c'était organisé, on sélectionnait son public. Demain, on ne peut plus sélectionner son public. S'il y a plus de demandes qu'il n'y a de place, chacun le sait et a la possibilité d'aller faire la file au moment où ça va se passer. On ne retire rien à personne, on donne ce droit à tout le monde.
Les parents vont même jusqu'à mettre en doute l'objectif du décret.
Idéologiquement, qu'est-ce que ça pourra changer ? Il n'y a rien à faire, il y a des familles aisées qui apportent peut-être plus de soutien scolaire à leurs enfants et qui permettent à des enfants d'évoluer mieux dans la scolarité et de ne pas devoir quitter l'école à un moment donné puisqu'il n'y a pas d'enseignement technique ici.
Malgré le pari du décret et les nombreux soutiens apportés, certains doutent tout de même de sa réelle efficacité.
Je dirais que le décret a été tellement détricoté.
Jouan Lismont, Bernard de Commer, syndicat CEL7K.
Notamment par des accords de majorité, donc il y a eu des pressions dans tellement de sens que nous nous demandons si l'aspect de mettre une date d'inscription a encore un sens.
On a prévu tellement de dérogations finalement qu'on se demande encore ce que ça va couvrir.
La grosse limite pour moi de ce décret...
Frédéric Ligaud, Mouvement Ouvrier Chrétien.
C'est que c'est un décret qui ne touche pas au terme même du marché scolaire. Donc nous avons un système scolaire qui pour l'instant fonctionne en termes de marché. Les deux piliers de ce marché, c'est à la fois la liberté de choix de l'école par les familles et sur l'autre part, le subventionnement des écoles en fonction du nombre d'élèves qu'elles scolarisent. Et donc, c'est à mon avis la question de la liberté de choix qu'il fallait beaucoup plus réguler.
Je pense qu'à elle seule, elle ne peut pas régler le problème de la mixité sociale dans une école.
Marie Arena, ministre en charge de l'enseignement obligatoire.
Mon premier souci, c'était de faire le contrat pour l'école. Il y a 10 priorités, il y a 50 mesures. Ça, c'est le paquet complet de la lutte contre la ghettoisation. Et encore, même avec les 50 mesures, on n'a pas tout fait. En une législature, on ne peut pas corriger ce qui, depuis 20 ans, fonctionne assez bien. Enfin, je veux dire, l'école de la sélection, on a beaucoup parlé de l'école de la réussite, mais pendant 20 ans, c'est pas ça, c'est l'école de la sélection, donc à fond.
Dans cet objectif de lutte contre la discrimination à l'école, d'autres solutions sont actuellement étudiées au cabinet de la ministre. On parle notamment de bassins scolaires, de financements différenciés. Mais le décret provoque déjà de telles réactions qu'elles ne peuvent actuellement être envisagées, d'autant que ces solutions toucheraient au terme même du marché et à la liberté du choix du chef de famille, un droit préservé par la Constitution et ardemment défendu par certains milieux. Didier Delavelay, directeur du mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, nous propose sa version, quelque peu radicale, pour une meilleure école.
En fait, la solution finale, c'est de revenir à une bonne école bien républicaine. Enfin, je ne suis pas obligé de dire républicain, elle peut être royaliste, je m'en fous, mais je veux dire qu'elle doit être en tout cas une école de l'État, une école publique, point. Un modèle. Et là, l'administration aura toute la possibilité de pouvoir contrôler ses directeurs et ses préfets et donc bien vérifier qu'il n'y ait pas de ségrégation.
Cette lutte contre la ghettoisation et la discrimination scolaire sera longue et périlleuse.
Moi, ce qui me frappe dans le système scolaire belge actuel, c'est voir quand des initiatives sont prises, que ce soit ici le contrat pour l'école ou bien d'autres grands pouvoirs organisateurs ou bien d'autres syndicats, c'est de voir qu'il y a une certaine paralysie, une forme de paralysie dans le système qui fait en sorte que l'école, en termes de système d'émancipation sociale, ne fonctionne pas.
Personne n'est contre la mixité sociale au sein de l'école. Mais quand il s'agit très concrètement de mettre en place des mesures politiques qui puissent changer les choses, ne fût-ce qu'à la marge, alors tout de suite on a affaire à des levées de boucliers. Il faut prendre des mesures politiques courageuses qui puissent remettre en question les termes du marché scolaire. Cela dit, c'est vrai que c'est désespérant cette mesure, parce que ça fait des années qu'on connaît les origines du problème, on sait sur quoi on doit jouer, mais personne n'ose nous avancer. Parce que pour un ministre, remettre en question la liberté de choix de l'école, c'est suicidaire, évidemment. C'est être certain de ne pas faire de voix aux prochaines élections.
L'école ne fait pas la société, c'est la société qui fait l'école. Hein. Là, bon, l'école, elle l'a subie. D'une façon, je crois que c'est d'abord à reprocher aux parents et à une certaine façon concevoir la société, qu'on nous entretient.
Beaucoup considèrent le décret comme étant un premier pas prometteur, encourageant, mais pas suffisant. L'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, renforce cette inquiétude et nous renvoie à une dure réalité. L'enseignement francophone de Belgique serait l'un des plus inégalitaires.
Élève contre la présence, vous êtes le dernier, ça me rend morose. Je vous vois dans la classe, tout là-bas, dans le fond. Oui, je suis le dernier, je passe pour un cuistre, mais je m'en fous, je suis près du radiateur. Et puis comme plus tard, je veux devenir ministre, moins je serai calé, plus j'aurai de valeur. Je vous crie bravo, mais je vous donne zéro. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée Papa, au lycée Papille, au lycée Papillon.